Elles sont au nombre de 37 et elles forment la matière de l'univers visible. 37 particules élémentaires, 4 forces fondamentales qui sont au cœur du modèle standard de la physique subatomique. Et grâce à leur découverte, les physiciens ont pu éclairer des siècles de questionnements sur la nature la plus intime de la matière. Et certaines de ces particules, à l'instar du boson de Higgs, ont fait la une de l'actualité lorsque leur existence a été prouvée. Dans le dossier de la tête au carré, aujourd'hui, nous partons donc ensemble le tourbillon des particules avec vos messages sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Un tiers des terres cultivables dans le monde sont dégradées, menacées par le réchauffement climatique et c'est à la une de la science. Aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, l'agriculture mondiale a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique et contre ses conséquences. On parle des solutions dans un instant pour la une.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre tête au carré préparée aujourd'hui par François Mercier avec Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La tête au carré donc dans le tourbillon des particules. Bonjour Marco Zito et Yves Sacquin.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Marco Zito. À l'origine de l'univers, il y a donc 37 particules, 4 forces fondamentales. Pas une de plus, pas une de moins, ou alors les choses restent très ouvertes dans la découverte de ces ingrédients qui forment la matière?
Disons qu'aujourd'hui on connaît ces 37 particules donc qui décrivent à la fois toute la matière qu'on connaît et aussi les interactions fondamentales. On a des soupçons qu'il y ait aussi des choses au-delà du modèle standard, qui est la théorie que nous avons, qui décrit tous ces phénomènes. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'il y a encore des belles choses à découvrir.
Donc, le tableau pourrait être complété, au gré des découvertes. Yves Sacquin, est-ce que l'on sait pourquoi l'univers a basculé un jour dans le monde de la matière plutôt que dans celui de l'antimatière ?
Eh bien, pour être franc, non, on ne le sait pas. Et ça fait partie des recherches actuelles en physique subatomique, physique des particules. En particulier, l'étude de l'antimatière, telle qu'elle se fait à Genève, au CERN, où on étudie l'anti-hydrogène et au-delà, a pour but d'essayer de comprendre justement d'où vient cette fameuse dissymétrie entre matière et antimatière, sachant que le modèle du Big Bang exige qu'il y ait autant de matière que d'antimatière qui aurait été créée au moment du Big Bang.
Ouais, on y reviendra avec vous dans un instant parce que c'est passionnant aussi cette affaire d'antimatière. On se retrouve donc autour de ce livre dans le tourbillon des particules qui sort chez Belin et avec toutes les questions des auditeurs. Le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est à la une de la science aujourd'hui.
Je pense que d'avoir une agriculture adaptative, c'est probablement la meilleure approche de ces risques. À peu près certain, on sait que le réchauffement climatique va être là, on sait qu'il y aura des changements dans la distribution de l'eau et dans la manière dont les précipitations vont se localiser, s'intensifier parfois, quand on aura des sécheresses. Donc ça implique des mécanismes de solidarité et d'anticipation à la fois locale et collective, qui lie le local au collectif.
Voilà, c'était la voix du climatologue Hervé Le Treut dans les allées de la COP21, c'était en fin de semaine dernière, avec ce chiffre qui arrive, 33% des terres cultivables sont dégradées et le réchauffement menace près de la moitié des sols cultivables. Bonjour Jean-François Soussana.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique environnement à l'INRA, vous êtes également membre du GIEC et vous lancez avec l'IRD et le CIRAD l'initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. C'est un vaste programme qui vise à montrer que l'agriculture a des solutions à apporter justement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Quel rôle joue précisément, Jean-François Soussana, les sols dans ce processus de réchauffement, qu'on comprenne bien exactement comment ça fonctionne?
Alors les sols, ils sont menacés parce qu'on peut perdre jusqu'à 2% par décennie de la surface des terres cultivables du fait de l'érosion, de formes d'agriculture qui ne sont pas durables. Et en même temps, c'est une solution potentielle, puisque nous avons la possibilité de restaurer ces sols et d'accumuler du carbone, c'est-à-dire le soustraire au CO2 atmosphérique. Donc la cible qui est donnée par ce programme 4 pour 1000, ce serait d'augmenter au niveau mondial de 0,4% par an, le taux de matière organique, la quantité de matière organique dans les sols mondiaux.
Donc là, on voit disparaître les sols, donc ce sont d'autant de puits de carbone aussi qui disparaissent?
Oui, effectivement, mais c'est surtout une menace pour la sécurité alimentaire, puisque nous allons devoir augmenter la production de 50 à 70% d'ici à 2050, et si nous perdons nos sols, nous perdons les moyens de cette production. C'est aussi une menace pour l'adaptation au changement climatique de l'agriculture, puisque perdre les sols, c'est avoir beaucoup plus d'irrégularité dans les rendements. Des sols dégradés vont être sensibles aux sécheresses et donc ils vont produire moins.
Quelles sont les caractéristiques d'un sol qui participe à la lutte contre le réchauffement en bonne santé ?
Eh bien voilà, c'est cette santé du sol qui va se caractériser par un stock de matière organique important, par une activité biologique forte, qui va permettre, disons, cette fonction d'adaptation au changement climatique et en même temps cette fonction de puits de carbone, puisque si vous voulez, on a estimé au niveau mondial que l'on pourrait avoir un stockage dans la matière organique du sol qui dépasserait 3 milliards de tonnes de carbone par an si on était en mesure de mettre en œuvre ces puits de carbone sur à la fois les surfaces cultivées et les forêts.
Alors justement, Jean-François Soussana, comment on fait concrètement pour rendre aux terres agricoles leur capacité de captation de CO2 ?
Alors on va parler de techniques de restauration, donc il faut déjà qu'on évite de laisser le sol à nu pour limiter les pertes de carbone. On va avoir un travail pour trouver les bons itinéraires pour les cultures, les pâturages ou aussi les peuplements forestiers qui sont dégradés. Mmh. Donc retrouver, si vous voulez, leur fonction de production, souvent avec des plantes qui fixent l'azote atmosphérique ou qui sont capables de retrouver du phosphore dans ces sols dégradés. On va planter des arbres qui vont avoir ce rôle aussi pour aller chercher les nutriments en profondeur dans le sol. On va pouvoir amener des composts, amener des fumiers, des effluents d'élevage, et puis on va pouvoir conserver, collecter l'eau au pied des plantes pour favoriser la croissance végétale.
On revient sur les 33% de sols dégradés aujourd'hui. Est-ce que c'est l'échec de l'agriculture intensive ?
Pas seulement de l'agriculture intensive, c'est aussi l'agriculture extensive qui peut poser des problèmes, puisque vous avez d'un côté, dans certaines régions, des systèmes de culture qui ont laissé le sol à nu trop longtemps, et c'est particulièrement risqué quand vous êtes sur des pentes fortes, parce que là, vous avez beaucoup d'érosion. Et ça peut être en agriculture intensive. Mais par exemple, dans de vastes régions semi-arides du monde, on a observé une dégradation des terres, qui était par exemple liée à un surpâturage dans des systèmes pastoraux extensifs. Donc, au fond, il s'agit bien de reconsidérer les fonctions de l'agriculture. Et sa première fonction, c'est de produire des aliments, mais aussi de conserver les ressources et de conserver les sols.
Alors, qui vous allez pouvoir convaincre, justement, Jean-François Soussana, pour participer avec vous à ce projet, la 4 pour 1000 ?
Alors,
les agriculteurs d'abord, j'imagine.
C'est considérable, parce que vous avez 570 millions de fermes dans le monde, un grand nombre de personnes qui habitent en zone rurale et qui peuvent contribuer à la mise en place de ces pratiques, mais on ne part pas de rien. Vous avez toutes sortes d'initiatives internationales qui sont complémentaires, et en particulier l'objectif de neutralité de la dégradation des terres, qui a été adopté également au niveau des Nations Unies. Et on est en convergence maintenant entre les objectifs climat, les objectifs sur la dégradation des terres, la sécurité alimentaire et même la biodiversité, puisqu'on peut indiquer que le sol contient environ un quart de la biodiversité mondiale.
Vous avez, je crois, présenté ce projet mardi dernier dans les allées de la COP21. Quelle a été la réception ?
Eh bien, c'était un événement officiel organisé par notre ministre de l'Agriculture. 40 pays ont apporté officiellement leur soutien à l'initiative, les grandes organisations internationales également, qu'il s'agisse de la FAO, de la Banque mondiale et de beaucoup d'autres, les mouvements d'agriculteurs, certaines ONG. Donc on voit un intérêt. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'observer que les pays africains étaient très intéressés pour la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique. D'autres pays étaient plus intéressés par l'effet de stockage de carbone, mais finalement, tout le monde convergeait sur le même objectif.
Bon, ben, on vous souhaite de convaincre le plus de monde possible, Jean-François Soussana, avec donc ce projet 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Et puis, Axel, on glissera l'adresse.
Voilà, sur les réseaux sociaux dans un instant pour visiter le site.
Merci Jean-François Soussana, bonne journée, merci pour vos explications.
Merci.
Allez, on reste justement dans les questions climatiques pour partir dans les coulisses de la COP21.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Voilà, et comme pendant tous les jours de cette conférence, nous retrouvons Hervé Kempf au téléphone avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On fait un point bien sûr sur les négociations qui ont continué depuis vendredi, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne qu'il y a maintenant un texte de travail stable qui a été déposé samedi, que Laurent Fabius a défini une méthode de travail qui a été acceptée par l'ensemble des États. En gros, on définit 4 groupes sur les principaux sujets et chaque groupe est en quelque sorte animé par 2 ministres, un d'un pays du Sud, un d'un pays du Nord. Et puis, on a un calendrier, c'est-à-dire que le président de la COP de la COP, Laurent Fabius voudrait que le texte soit prêt jeudi soir, c'est-à-dire que l'accord soit prêt jeudi soir, ce qui est optimiste. Mais là, on est vraiment parti dans un travail très assidu et dans une atmosphère, comme disent les diplomates, optimiste. En tout cas, c'était l'ambiance ce matin.
Et les nuits blanches s'enchaînent apparemment. Un mot, Hervé, sur la mobilisation de ce week-end à Montreuil.
Voilà, à Montreuil, aux portes de Paris. Et bien, écoutez, ça a été un succès. Il faisait très beau et il y avait près de 30 000 personnes qui parcouraient les rues autour de la place Jean Jaurès, autour de la mairie de Montreuil, pour aller voir de l'agriculture, des ONG, des médias, de l'énergie, enfin toutes sortes d'alternatives dans une très chaleureuse bonne humeur. Et puis, c'est un acte politique quand même, en liaison avec la COP et par rapport au changement climatique. Et les 196 chaises qui avaient été empruntées dans des banques depuis quelques mois ont été réunies. Et à cette occasion, l'appel a été lancé pour que, en gros, le message de base, c'est l'argent nécessaire pour lutter contre le changement climatique existe, selon les organisateurs et les faucheurs de chaises. Cet argent, il est dans les paradis fiscaux, il est dans l'évasion fiscale. Et donc, ils ont demandé solennellement un appel à une taxe financière, à une taxe sur les taxations financières d'une part, et à une lutte contre l'évasion fiscale et contre les paradis fiscaux.
Et on termine, Hervé, avec les estimations des émissions de CO2 en 2015.
Voilà, alors comme nous sommes toujours soucieux de respecter l'embargo, Mathieu, eh bien nous ne dirons pas ce qui se passera à 17h, mais enfin attendez-vous quand même à savoir une nouvelle assez importante. Selon des estimations très sérieuses de l'Université d'Oxford, les émissions de CO2 émises par la combustion des combustibles et de l'industrie devraient stagner, se stabiliser en 2015. Ça serait une confirmation de l'année précédente où il y avait déjà une très faible croissance. Ouais. Et donc, ça sera une nouvelle importante.
Elle sera donc confirmée à 17h lorsque l'embargo sera levé. Merci beaucoup Hervé Kempf. Et puis bien sûr, la COP21, c'est à découvrir sur reporter.net. Bonne journée et à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'obésité des hommes pourrait se transmettre par leur sperme. Après avoir analysé le sperme de 13 hommes de poids normal et 10 hommes obèses, des chercheurs danois ont découvert que l'obésité modifiait la méthylation de 9000 gènes, tous hérités via les spermatozoïdes. Mais cette modification ne semble heureusement pas définitive. Dans un second temps, ils ont montré que l'ADN des hommes ayant perdu du poids après une opération chirurgicale de l'estomac revenait doucement à la normale. Et puis les pêches ont précédé les hommes sur Terre. Les 8 plus vieux noyaux de pêche fossilisés au monde sont vieux de 2,5 millions d'années. Ils ont été découverts au sud-ouest de la Chine, d'apparence moderne. Ce fruit juteux et sucré aurait même été longtemps populaire chez les primates et les hominidés. Des chercheurs américains ont en effet montré qu'avant même sa domestication par l'homme, la pêche a évolué par sélection naturelle grâce à la dissémination de ses graines par nos ancêtres non humains. Des photos de ces noyaux fossilisés sont à découvrir dès maintenant sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Allez, dans un instant, nous partons au pays des particules élémentaires avec toutes vos questions qui arrivent déjà sur franceinter.fr.
Thank you.
Rosa me mène avec Tame Impala.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Dans le tourbillon des particules, c'est un livre qui sort aux éditions Belin et que vous signez, Marco Zito. Vous êtes physicien à l'IRFU, c'est l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers. Ça se trouve au sein du Commissariat à l'Énergie Atomique. Et à vos côtés, votre confrère Yves Saquin, physicien des particules, également à l'IRFU. Yves Saquin, les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Marco Zito, avant d'entrer dans le secret des particules, qu'est-ce que vous étudiez, vous, exactement, en tant que physicien? Parce qu'il y a beaucoup de branches différentes dans votre domaine.
Absolument. Moi, j'étudie les neutrinos. Donc, depuis une dizaine d'années, j'étudie cette particule, qui est une particule très difficile à étudier parce qu'elle interagit très peu. Donc, il y a des neutrinos qui peuvent traverser la Terre d'un départ en part, et donc qui sont en train, en ce moment, de remonter des entrailles de la Terre, de nous traverser, de s'échapper à nouveau.
Ça fait pas mal, hein. Voilà. Non. Heureusement.
Voilà, et donc j'ai moi en particulier j'ai construit des détecteurs donc pour les détecter et j'ai aussi pendant longtemps écrit des programmes, des logiciels pour analyser les données de ces événements, de ces interactions et détecter quelques événements rares qui sont parfois les plus intéressants.
Pourquoi avoir choisi les neutrinos parmi toutes les particules possibles?
Alors, les neutrinos, je pense que c'est une particule qui rentre en résonance, en plus avec l'actualité. On les appelle les éternels voyageurs, voilà. Donc, parce que une particule, un neutrino émis d'un côté de l'univers peut arriver de l'autre côté de l'univers sans interagir. Donc, c'est des formidables messagers de ce qui se passe dans des milieux très denses, dans des milieux comme le soleil, comme des supernovas, donc des étoiles qui explosent. Voilà, donc et en plus, c'était peut-être qu'on peut en parler. C'est les prix Nobel de cette année.
Cette année, oui.
Voilà, donc 2015, donc prix Nobel à un chercheur japonais, monsieur Kajita et Otto McDonald au Canada, donc qui ont découvert que les neutrinos ont des changements d'identité, des métamorphoses, et voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez qui nous intrigue parce que voilà, donc ça montre que il y a un devenir aussi dans le monde des particules, voilà, on n'est pas figé. Oui. Voilà, on peut changer.
Il y a un travestissement aussi, alors finalement, dans les particules comme les neutrinos.
Oui, mais un changement profond d'identité pour ensuite revenir aux origines et changer à nouveau. Voilà.
Bon, tout ça se fait toujours sans dépasser la vitesse de la lumière, parce qu'on se souvient de ce débat déchaîné dans le monde de la physique. On avait convoqué les physiciens pour en discuter. Einstein a encore raison.
Oui, tout à fait. Et beaucoup de physiciens ont dit ouf, des soulagements. Voilà, il y a quelques lois qui tiennent bon.
C'est toujours du solide. Vous, Yves Saquin, dans quel domaine de la physique est-ce que vous travaillez exactement?
Alors, je m'étais intéressé aux neutrinos aussi à mes débuts, je dirais. Et là, maintenant, depuis une petite dizaine d'années, je suis plutôt sur l'antimatière. Ouais. C'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les propriétés de l'antimatière.
Et il y a beaucoup de choses à comprendre.
Et il y a beaucoup de choses à comprendre parce que finalement, on n'en sait pas grand-chose. Mm-hmm. On commence à avoir fait les premières expériences qui permettent de tester ce qu'on appelle les interactions électromagnétiques sur les atomes d'antimatière comme l'antihydrogène ont eu lieu il y a 2 ans, les tout premiers essais. Mmh. Et il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas sur l'antimatière. Alors, les théoriciens disent qu'ils savent, eux, ça fait partie de leur modèle, mais nous, on est expérimentateurs et on voudrait prouver que c'est vrai ou que c'est faux, bien sûr. Donc, on étudie ces antiparticules, ces antimatières, en fabriquant de l'antihydrogène au CERN, en fabriquant
Pour imaginer le scénario possible, alors, justement, de l'apparition de...
Le scénario possible pour l'expérience dans laquelle je suis, qui s'appelle GEBA, c'est de mesurer la gravitation sur cet atome d'antimatière et de voir si ça serait pas par hasard légèrement différent ou très différent de la matière proprement dite. Déjà très légèrement différent, ça serait une petite révolution en soi parce que là on commencerait à mettre en défaut un principe d'équivalence d'Einstein et des choses comme ça. Mais la grande majorité des théoriciens dit qu'il n'y a pas de différence, mais ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été mesuré.
En tout cas, en attendant, le monde a basculé dans la matière.
Hein. Alors, le monde a basculé dans la matière, on ne voit que de la matière de nous dans l'univers.
Ouais. Ça s'est joué à quoi? À un fil, quasiment?
On ne sait pas très bien. On ne sait pas d'où vient le fait qu'on est fabriqué que de matière. Ouais. Le peu d'antimatière qu'on voit dans l'univers, il est fabriqué par les rayonnements cosmiques, donc par de l'accélération de matière qui heurte de l'autre matière, donc une transformation d'énergie en matière antimatière. Et les théories actuelles pour expliquer cette dissymétrie font intervenir des violations de symétrie. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les paramètres qu'on a mesurés pour ces violations de symétrie, qu'on a mesurés sur des particules élémentaires, ne sont pas suffisants actuellement pour vraiment expliquer.
Alors justement,
donc, on continue de chercher ce genre de paramètres. Et l'étude des neutrinos va permettre de préciser quelques-uns de ces paramètres, justement.
Alors, une question de Larry sur Twitter. Il demande, est-ce que les particules élémentaires déjà font partie des particules... Les antiparticules, pardon, font partie des particules élémentaires?
Alors, si on se base sur les 37 que Marco a dénombrés, il faut dire il y a 37 particules et 37 antiparticules. Mmh. Voilà.
Matière et antimatière sont élémentaires ou complémentaires. C'est la suite de la question justement de Larry.
Ben, ils sont à la fois élémentaires et complémentaires. Mmh. C'est-à-dire que chaque particule de matière a sa particule d'antimatière et les deux réunis donnent quelque chose qui est tellement complémentaire que le résultat n'a plus aucun nombre quantique. C'est-à-dire que c'est du rayonnement. C'est quelque chose qui n'a ni charge, ni autre nombre quantique associé. Nombre quantique étant des propriétés intrinsèques aux petites particules.
Marco Zito, votre ouvrage commence dans le nord de la Grèce. C'est bien, ça commence bien. Vous nous faites faire un voyage à Abdère. C'est un petit village dans lequel est né le philosophe Démocrite, un des pères de l'atomisme. C'était en 460 avant notre ère. Qu'est-ce que cet homme avait compris à cette époque au sujet justement des lois qui régissent l'univers?
Démocrite donc a écrit énormément d'ouvrages, aucun n'est arrivé jusqu'à nous, donc on a quelques bribes de son, mais ces quelques bribes sont elles nous frappent aujourd'hui parce que donc c'est lui qui a osé dire que il y a dans l'univers il n'y a que des atomes et du vide. Et que les atomes sont, enfin les mondes, il y a une pluralité des mondes, voilà, et que ces mondes sont engendrés et périssables. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cycle de vie dans l'univers, dans lequel on peut lire aujourd'hui, par exemple là-dedans, l'idée que bon, les étoiles se forment et ensuite rayonnent et ensuite peuvent ont une fin de vie, une explosion, par exemple les supernovas dont on parlait tout à l'heure. Mais donc une idée quand même que il y a de la matière dans l'univers, qu'en étudiant cette matière, qui est la même matière dans le ciel et sur Terre, on peut comprendre par la raison humaine les lois qui explique tous ces phénomènes. Voilà, donc c'est une théorie d'une portée formidable. Il nous a fallu quand même des milliers d'années, enfin 2000 ans depuis Démocrite, pour arriver vraiment à comprendre les mécanismes de la matière.
Comment à l'époque on a pu parler d'atomes puisqu'on n'avait aucun moyen expérimental pour les observer? Comment ils ont fait alors?
Alors moi je suis pas spécialiste de la pensée antique, donc mais quand même, ce que j'ai remarqué, c'était une région caractérisée par plusieurs choses. D'abord, c'est une région très riche en mines des métaux, d'or et autres argent. Et donc, je pense que c'est les premiers éléments qu'on a vraiment connus en tant qu'éléments. On parle non de l'âge, l'âge du fer, l'âge du bronze, qui est un alliage d'éléments. Et donc, c'est là qu'on a pu voir qu'effectivement, il y a des substances simples. Voilà, donc ça, c'est une première piste. Mais moi, me tient à cœur aussi de signaler une autre piste, qui est de dire que Démocrite était une personne très curieuse, qui a voyagé beaucoup. Il aurait été jusqu'aux Indes, et donc il aurait été en contact avec plein de cultures différentes, et donc c'est dans ces mélanges de cultures différentes, il était quelqu'un de très cultivé, qui a discuté avec des savants en Inde, mais aussi des astrologues, donc en Asie, et donc c'est quelqu'un quand même qui a su synthétiser, assimiler toute une culture internationale.
Donc il s'est nourri de tout ça, et il a eu une intuition quand même géniale.
Absolument.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant, on va poursuivre ce voyage avec vous autour des connaissances sur la matière et sur sa composition, avec déjà beaucoup de messages pour vous, franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, Souchon et Woolsey.
soit scout. Elle aime les Bad Boys. Elle aime les Bad Boys. Elle dit j'en ai assez d'ici. Ses parents lui font les jours légers. Mais Kurt Cobain et AC/DC peuvent seuls la soulager. Elle aime les Bad Boys. Elle aime les Bad Boys. Professeur de français la craint. Elle dit Rimbaud, elle dit Baudelaire. C'était des Bad Boys. C'était des Bad Boys. Son visage, charbon noir et bouche gothique. Pour plaire aux Bad Boys. Pour plaire aux Bad Boys.
Marco Zito est physicien, il publie chez Belin dans le tourbillon des particules et il est venu avec son confrère Yves Sacquin avec vos messages sur le site de l'émission. Margot nous dit ceci, vous nous avez parlé de 37 particules, soit, mais quelles sont-elles et comment sont-elles classées? Alors on va pas en faire toute la liste Marco Zito, mais il y a quand même un classement particulier, hein.
Oui, absolument. Alors, d'abord, il y a les particules qui forment la matière dont sont composées, et donc on les appelle les fermions. Donc, on trouve, par exemple, les quarks up, les quarks down, qui forment protons et neutrons. Il y a d'autres quarks un peu plus exotiques, mais je vais pas les...
Vous nous épargnez.
Je vous épargne.
Merci.
Mais il y a aussi l'électron, bien sûr, donc qui avec donc protons et neutrons forment les atomes, donc c'est peut-être bien connu. Mais l'électron lui-même a des cousins plus lourds, donc que je vous épargne aussi, mais qui ont été un peu un choc pour les physiciens parce que quand ils les ont découverts, ils s'attendaient pas du tout de découvrir d'autres particules. Et finalement, il y a les neutrinos qui me tiennent à cœur.
C'est
donc
ça.
Tout ça, ça forme, disons. C'est les fermions, donc ça forme la matière, on peut dire. Après, il y a des particules, donc c'est les bosons, qui sont les portent les interactions. Donc l'interaction électromagnétique, donc c'est les photons. Il y a l'interaction forte, c'est les gluons. Et plus récemment, on a découvert des cousins du photon, donc c'est les bosons W et Z, qui portent l'interaction faible.
Bon.
Voilà. Et au milieu de tout ça, cerise sur le gâteau, découverte en 2012.
Le boson de Higgs. Hein, évidemment. Voilà. Le boson de Higgs, c'était le 4 juillet 2012, découverte qui a mis en émoi toute la communauté des physiciens.
Des scientifiques sont presque convaincus d'avoir trouvé le dénommé boson de Higgs. En fait, l'information révélée mercredi matin par le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, porte sur une nouvelle particule compatible au boson de Higgs. La découverte de ce qui s'avère être le chaînon manquant dans la théorie des particules élémentaires a été rendue possible grâce aux résultats d'expériences menées avec l'accélérateur de particules installé à Genève. L'annonce de cette avancée majeure en physique a en tout cas été applaudie dans la salle de conférence du CERN mercredi, mais aussi partout dans le monde. L'ensemble du modèle standard de la physique requiert l'existence du boson de Higgs. Si nous voyons cette particule, cela veut dire que le modèle tout entier est correct.
Voilà, le boson de Higgs, Marco Zito.
Alors, oui, une réaction. Alors, dans la salle, il y avait monsieur Higgs, Peter Higgs, qui a pleuré. Et qui était vraiment, c'est lui qui a avec d'autres confrères, bien sûr, mais qui a à l'origine de cette avancée.
Et Ferrari, il a eu le Nobel très rapidement, hein, au fond. Après, il a eu le prix Nobel très vite, mais parce qu'il avait été prédit aussi il y a très longtemps.
Oui, tout à fait, dans les années 60.
Ouais. Pourquoi est-ce que ça a mis en émoi toute la communauté des physiciens ? Il faut qu'on comprenne bien ce que ça représente, cette particule-là, voilà, le boson de Higgs, soit. Mais pour vous, c'était quand même la quête du Graal. Hein.
On l'a présenté comme ça, et c'est vrai qu'il y avait un peu cet aspect-là.
Ça a été survendu ?
Non. Non, je dirais pas que ça a été survendu. Certaines personnes ont voulu en faire la particule de Dieu, mais ça c'était une erreur de traduction.
Surtout en science.
Et surtout en science,
ça la fout mal.
On ne s'aventure pas dans ce terrain-là.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'on avait un modèle standard des particules, qu'on avait testé depuis 20 ans, 30 ans, dans des moindres recoins, on ne trouvait pas de défaut, on ne trouvait pas d'écart statistique, d'écart de mesure qui ne soit pas en accord avec ça. Il restait une chose dans ce modèle standard qui n'était pas encore découverte, c'était le boson de Higgs. Et donc, après avoir fait des centaines et des centaines d'expériences, il fallait à tout prix qu'on le trouve. Et bien sûr, on l'a cherché à pas mal d'énergie, puisque la théorie ne prédit pas à quelle énergie, à quelle masse il était. Donc ça a été très long pour le trouver. Le LEP, dans les années 90, a fait des expériences, ne l'a pas trouvé parce qu'il n'avait pas assez d'énergie, mais il a défini une fenêtre dans laquelle il devait se trouver, et le LHC l'a trouvé dans cette fenêtre.
Mais c'était très long à mettre en évidence. Dans ce contexte, comment on a pu imaginer qu'il pouvait exister, justement ?
On a dû imaginer qu'il pouvait exister grâce à, c'est les travaux de Peter Higgs, Brut Engler, les théoriciens. C'est-à-dire que le modèle standard tel qu'il fonctionnait avait un gros défaut, c'est que les masses des particules n'existaient pas. Le modèle ne pouvait pas donner des masses aux particules. Donc c'était un défaut majeur. C'est simplement quand Monsieur Higgs et les autres ont dit « Ah, mais si on rajoute ce boson, là, on va faire une régularisation de l'ensemble et on va voir les masses et tout va bien s'agencer », que là, on s'est dit, bon, ben, il faut chercher ce boson. C'est-à-dire que c'était un des défauts majeurs du modèle standard qui a pu être enfin comblé par les travaux des théoriciens, mais ensuite, 50 ans plus tard, par les découvertes
des expérimentateurs.
Disons que il venait dans nos équations. Donc, à ce moment-là,
il était là, mais
à ce moment-là, il fallait absolument voir s'il existe, parce que sinon, on peut pas savoir si l'équation est vraie ou pas.
Marco Zito, la semaine prochaine, je crois, le CERN va donner des résultats, liés justement au fonctionnement du LHC à très haute énergie. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de très belles surprises?
Moi, je peux pas vous garantir
pour les surprises. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, justement.
Non, bien sûr que non. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le LHC, cette magnifique machine, n'était pas seulement construite pour découvrir les bosons de Higgs, mais aussi pour tester une nouvelle gamme d'énergie qu'on n'avait jamais explorée jusqu'à là. Donc, c'est un peu un terrain inconnu. Et donc, on peut toujours avoir des surprises, et surtout que l'énergie des faisceaux a été augmentée grâce à un travail remarquable d'ingénieurs et techniciens qui a duré plusieurs années et qui donc attend aujourd'hui 13 TeV.
C'est-à-dire, pour nous donner un petit ordre d'idée comme ça, parce que
disons que c'est deux fois plus qu'avant, et disons que ça permet vraiment de tester des tailles, des régions dans l'espace, des tailles vraiment très très minuscules, dans lesquelles peut-être, par exemple, comme on parle des particules élémentaires, on peut imaginer que des particules, à un moment donné, à partir d'une certaine échelle d'énergie, puisse révéler des propriétés cachées.
Ouais. Laurent demande, est-ce qu'on est vraiment certain que les particules actuellement supposées élémentaires le sont vraiment ? N'y en aurait-il pas de plus petites encore ?
Bien sûr, on s'est posé cette question. Nous, moi, je suis particulièrement tourmenté par cette question.
On s'est toujours posé cette question. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a découvert les particules élémentaires, puisqu'il faut bien voir qu'il y a un siècle, les particules élémentaires, c'était l'électron, le proton, et puis un peu plus tard le neutron. C'était élémentaire. Il a fallu attendre pas mal de temps pour trouver que le proton et le neutron, en fait, ils n'étaient pas élémentaires. Donc, on en est à un stade où le modèle standard tient très bien avec cette élémentarité-là.
Mais tout est possible.
On peut dire que tout est possible. Justement, en montant à encore plus haute énergie, il y a que par là qu'on peut espérer prouver la non-élémentarité.
Disons l'histoire de la physique et de toutes ces découvertes nous montre que la réalité n'est pas tout un bloc, mais c'est des couches successives, donc des domaines qui ont leurs lois, et donc on peut découvrir, très, très bien comprendre, mais ensuite, quand on regarde les choses de plus près, il y a des domaines qui sont encore, comme on a d'abord découvert les noyaux, par exemple, c'était une découverte déjà phénoménale, il y a une certaine d'années. Mais quand on a découvert que les noyaux lui-même n'est pas élémentaire, donc on a fait des progrès dans nos connaissances et ces progrès peuvent être utilisés pour plein des choses.
Allez, trois questions sur vos amis. D'abord les neutrinos, Marco Zito. Stéphanie demande comment on mesure la vitesse des neutrinos, comment est-ce qu'on étudie donc ces particules élémentaires. Et puis Benoît aimerait savoir si vous arrivez à en produire des neutrinos.
Alors, bien sûr, la vitesse des neutrinos qui a été à l'origine d'un très grande controverse scientifique, parce que des premières mesures semblaient indiquer qu'ils allaient plus vite que la lumière.
Voilà, donc ça, on sait que c'est faux.
Voilà. Donc, mais en fait, on sait très bien. Alors, justement, on arrive à produire les neutrinos, et c'est grâce à ça qu'on sait en mesurer la vitesse. C'est-à-dire qu'on produit des neutrinos avec un faisceau de particules chargées. Donc, c'est quelque chose, ça semble assez abscon, mais en fait, il y a 2000 accélérateurs de particules dans le monde, dont la plupart, par ailleurs, ne sont pas faits pour les physiciens, mais sont faits pour des applications comme soigner des tumeurs, etc. Donc, on fait interagir ces particules chargées sur une cible, et c'est ça qui donne les top départ. D'où viennent d'autres particules. Et ensuite, il y a notre faisceau qui est un faisceau des neutrinos.
Et ces neutrinos que vous fabriquez, vous arrivez à les propulser donc à travers le milieu interstellaire ?
Non, pour l'instant, on se limite, on joue petit, on se limite à les faire propager dans la croûte terrestre.
C'est pas si mal.
Voilà, déjà.
C'est pas si mal.
Donc, pour des centaines de kilomètres.
Aldo demande, Yves Sakin, compte tenu de la difficulté à stocker facilement de l'antimatière, quelles pourraient être les applications futures de ces antiparticules ?
Elles sont très nombreuses dans le sens que celle à laquelle rêvent beaucoup de gens, c'est que ça représente une façon de stocker de l'énergie extraordinairement concentrée.
Ouais.
C'est-à-dire la fusion nucléaire représente un stockage d'un facteur 10 000 à peu près, plus compact que l'énergie chimique. Et là, on gagnerait encore un facteur 1000 au moins en compacité d'énergie. Donc ça fait rêver, avec quelques kilogrammes, on pourrait aller sur l'étoile la plus proche. Mais il ne faut pas rêver trop non plus, parce que les quelques kilogrammes, la production d'antimatière telle qu'on l'a fait sur Terre est extrêmement peu efficace. Et donc, on avait calculé que pour équiper un vaisseau comme ça, qui est de ce kilogramme d'antimatière, il faudrait utiliser toute l'énergie produite par l'homme pendant plusieurs années. Voilà.
Donc,
et être capable de le stocker.
Petit problème de maîtrise.
Petit problème, là. On n'en est pas encore là.
Au niveau de l'antimatière. Mais...
Donc là, on. Mais les ordres de grandeur sont là, en fait. Ouais. C'est ça le problème.
Avec de belles promesses,
Donc peut-être que dans quelques siècles, on y arrivera.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de ce dossier sur les particules élémentaires. Et ça n'est pas du Welbeck dans la tête au carré.
We'll be right back.
The Lairs à l'instant.
La tête.
La démarche scientifique, c'est une démarche qui procède par erreur.
Carré.
On n'a jamais une vérité absolue, on se rapproche de la vérité progressivement et on émet des hypothèses qui demandent à être falsifiées justement pour qu'elles soient scientifiques.
Sur France Inter.
Dans le tourbillon des particules, Marc Audito, ce livre donc aux éditions Belin, à vos côtés Yves Sacquin. Pour vous Yves Sacquin, cette remarque de Françoise, l'antimatière n'est-elle pas utilisée déjà par l'imagerie médicale? On parlait des applications tout à l'heure.
Oui, bien sûr, oui, il faut le mentionner quand même. C'est la première application grand public, je dirais, de l'antimatière. C'est l'examen de tomographie par émission de positons, où on injecte en fait dans le corps du patient un sucre qui contient un élément radioactif, c'est-à-dire un des hydrogènes est remplacé par un fluor 22, enfin, un élément radioactif qui émet des positons, des anti-électrons. Et ce positon va s'annihiler avec les électrons du corps à l'endroit même où le sucre s'est fixé. Et on a une annihilation qui donne deux rayons gamma de très haute énergie qui sont détectés par des détecteurs tout autour du corps. Mmh.
Donc c'est bien l'utilisation de l'antimatière
est en jeu. C'est vraiment l'utilisation de l'antimatière qui est en jeu et ça permet en particulier, c'est une imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle va dire où est concentré ce sucre. Et on sait que les cellules cancéreuses, c'est les cellules qui consomment beaucoup de sucre. Donc en fonction de l'endroit d'où ça vient, on pourra dire, ah non, là c'est anormal, cette cellule a une probabilité, a une suspicion d'être tumorale.
Marc Audito, Jean-Paul demande, comment interagissent les particules élémentaires dans le milieu interstellaire? Quels sont les effets des rayonnements cosmiques sur ces corps minuscules?
Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, d'abord, on sait que, en fait, nos lois et nos découvertes sont universel, au sens que ce qu'on découvre sur Terre, en fait, s'applique aussi dans des situations très disparates et aussi très lointaines. Par exemple, parce qu'on pense bien savoir ce qui se passe dans les étoiles, au cœur du Soleil, etc. Donc, ce qu'on a compris sur Terre, on peut l'extrapoler. Donc on connaît les lois d'interaction et donc les particules, quand elles interagissent dans les milieux interstellaires, par exemple, elles les font comme nos particules dans nos accélérateurs, par exemple. Mais peut-être que je peux développer, et c'est une très bonne question de savoir comment on produit ces particules de très haute énergie qui sont les rayons cosmiques. Donc, on est encore aujourd'hui à la recherche des véritables accélérateurs parce qu'ils produisent des particules d'une énergie phénoménale, donc une centaine de fois, un millier de fois plus grande que celle des LHC. Et donc, voilà, on est bien curieux de savoir où sont ces accélérateurs cosmiques.
Et la matière noire dans tout ça?
Le mystère de la matière noire pourrait bientôt être éclairci. Une expérience menée dans la Station Spatiale Internationale ISS a permis de détecter ce que les scientifiques pensent être des traces de positrons. Le prix Nobel de physique Samuel Ting estime que le spectromètre magnétique alpha installé sur l'ISS devrait dans les prochains mois pouvoir dire avec certitude si ces positrons sont bien la signature ou non de matière noire. Je suis confiant, dit-il, qu'avec le temps, avec l'ISS, nous serons en mesure de résoudre ce mystère. Les scientifiques tentent depuis plusieurs décennies de déceler la matière noire. Une telle découverte serait une avancée majeure dans le domaine et la compréhension de la physique moderne. L'un des plus grands mystères du cosmos est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Quelle est cette mystérieuse substance qui maintient l'univers? Ces 80 dernières années, la théorie s'appelait la matière noire. On ne peut pas la voir, mais on sait qu'elle est là. Pour le moment, les observations de l'ISS ne sont pas encore suffisamment concluantes pour écarter d'autres explications. La présence de matière noire dans notre univers n'a jusqu'à présent été détectée qu'indirectement par ses effets gravitationnels.
Alors Marco Zito, bientôt éclairci le mystère de la matière noire, grâce entre autres à la Station Spatiale Internationale?
On aimerait bien que ce soit le cas, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est la matière noire, aujourd'hui l'énigme, un des énigmes les plus grandes auxquelles on est confronté. En fait, donc, on a vu dans les galaxies que les étoiles, en fait, ont des vitesses qu'on peut pas expliquer juste avec la distribution des matières lumineuses. Donc, il faut qu'il y ait autre chose.
Matière visible.
Voilà, la matière visible. Donc, il faut qu'il y ait autre chose pour que stabiliser ces galaxies, aussi dans les amas des galaxies, cette matière. Donc, on a découvert l'existence de cette composante mystérieuse par ses effets gravitationnels. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait.
Et de quoi elle est composée, demande Luc, justement, sachant qu'elle est majoritaire dans l'univers?
Oui, absolument. Donc, elle est 5 fois plus abondante que, on va dire, que la matière normale. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on ne sait pas. On pense qu'il pourrait s'agir des particules donc neutres, donc qui n'ont pas de charge électrique, parce qu'elles émettent pas de lumière. Ils interagissent très peu avec la matière normale. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui.
Et les gravitons, alors, on en est où sur l'exploration, en tout cas, de alors, ces particules.
Ça fait partie de la quatrième force la moins étudiée au niveau quantique, parce qu'elle est extrêmement difficile à étudier au niveau quantique, au niveau des particules élémentaires. C'est-à-dire que traditionnellement, dans les expériences de physique des particules, on néglige tout ce qui est gravitation. Alors, le graviton, par contre, il a pu être plus ou moins vu indirectement dans les ralentissements de quasars, de ces objets qu'on voit dans l'univers. On peut mentionner qu'il y a des expériences extrêmement intéressantes qui vont être tentées. Il y a LISA Pathfinder qui a été lancé la semaine dernière pour ouvrir la voie, ouais, justement à LISA, ce grand interféromètre dans l'espace. C'est quelque chose d'assez génial, parce que 3 satellites qui échangent des photons à quelques millions de kilomètres.
Pour l'étude des ondes gravitationnelles.
C'est l'étude des ondes gravitationnelles, ouais, donc du graviton, en fait. Ouais. Et ça, c'est des expériences gigantesques. Au niveau quantique, actuellement, on a beaucoup de mal à essayer de dire comment on pourrait l'observer, parce qu'on n'a pas de théorie de la gravitation qui marche au niveau quantique. Et ça, c'est un des gros problèmes pour la théorie et pour les théoriciens, c'est d'intégrer cette quatrième force. Est-ce qu'elle peut s'intégrer de la même façon que les autres dans un modèle unifié ou pas? C'est une grosse question, beaucoup de théoriciens travaillent dessus, et en tant qu'expérimentateur, on n'a aucune idée de façon de tester vraiment complètement ce genre de choses.
Allez, dernière question, Marco Zito de Bomber sur Twitter. Pour les non-scientifiques, quelle est l'avancée concrète pour notre vie quotidienne autour de ces particules élémentaires? Ça me paraît tellement loin pour un non-initié, dit Bomber.
Mais en fait, quand on regarde l'histoire des sciences, chaque fois, en fait, on ne sait pas quelles peuvent être les applications, mais quand on découvre, quand on fait des découvertes au niveau fondamental, en fait, on ouvre des pans entiers des technologiques. Par exemple, on peut mentionner l'électricité. Pendant des siècles, c'était resté un peu la curiosité pour des savants, on faisait un peu des étincelles, etc. Et finalement, quand on a compris, quand on a eu les lois qui régissaient l'électricité, les magnétismes, ça a pu, bah voilà, imaginer qu'est-ce que serait notre société sans électricité aujourd'hui, bah quand vous avez un blackout, voilà, vous... Donc, et y compris par exemple les ondes radio, voilà, les ondes radio n'existaient pas avant d'avoir compris les lois de l'électromagnétisme.
Ouais. Donc les prochains résultats du CERN, on le disait, c'est la semaine prochaine, à la fois sur le boson de Higgs aussi, pour connaître plus de propriétés du boson.
Oui, sans doute.
Oui, Yves Sacquin.
Oui, c'est le premier objectif, effectivement, des études à haute énergie, mais de raffiner les propriétés de ce boson de Higgs. Maintenant, on est convaincu que c'est bien celui qu'on cherchait. Ouais. Et il faut essayer de voir si on voit autre chose que, ou des petites propriétés ou autre chose qui, avec l'énergie disponible.
Mais peut-être faudra-t-il revoir le bandeau de votre livre, Marco Zito, à l'origine de l'univers, 37 particules et 4 forces. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on va annoncer de nouvelles particules, qui sait,
mais
non?
J'en serais plus heureux. C'est-à-dire, en fait, nous, on est animés par la passion de découvrir et donc de mettre en pièce les théories qui sont déjà en place.
Bon, voilà. On viendra vous aider pour coller des autocollants sur la couverture de votre livre et pour le réactualiser, c'est promis. Merci beaucoup. Ça s'appelle Dans le tourbillon des particules chez Belin. Et merci beaucoup, Yves Sacquin, d'être venu. On peut signaler également ce livre d'Elena Pasquinelli, qui fait partie du Goût des sciences, un livre qui a été primé par le Goût des sciences.
C'est ça, donc j'ai l'honneur de faire partie de ce jury.
Et voilà. Ça s'appelle Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité, un livre que vous nous conseillez.